Je veux parler aux accidentés de la vie. Je veux parler à ceux de nos compatriotes que la vie a usés, à ceux qui sont dans la détresse. Je veux parler aux malades, aux handicapés, aux personnes âgées, à ceux qu'une pression trop forte a épuisés, à tous ceux qui ont trop souffert. Eh bien, moi, je veux leur redonner l'espérance.
Alors, voici M. Sarkozy qui parle ce soir, donc dimanche soir. Il parle sur les télévisions françaises. Donc, ce monsieur lit un texte. Il n'y a aucune franchise dans ses paroles. Il a tout le temps les yeux fixés sur sa copie. Et il parle d'aimer les handicapés, il parle d'aimer les malades, il parle d'aider tout le monde. Mais ce mec, c'est un menteur. Il n'y a rien d'humain dans tout ce qu'il dit. Il n'y a rien de franc dans tout ce qu'il dit. Et j'espère que les Français vont vraiment prendre du recul par rapport à tout ça et vraiment réfléchir à ce monsieur qui nous parle actuellement et qui manipule les Françaises et les Français. Et vraiment, s'il vous plaît, réfléchissez.
Ouais, alors je sais pas quoi dire, c'est lamentable, c'est 11 millions de Français qui pensent que Sarkozy vont les sortir de je sais pas quoi, c'est lamentable. Tous ces égoïstes, tous ces gens qui pensent qu'à eux, qui ne voient pas plus loin que leur bout de nez, c'est lamentable, lamentable, lamentable. La France, c'est... J'espère que... Il y aura des conventions entre Ségolène et les gens d'extrême gauche. Mais vraiment, je suis déçue. Les Français me déçoivent. Je suis triste ce soir, vraiment triste. Au revoir. C'est Dominique de Haute-Savoie.
Oui, et ben maintenant, ils vont tous lécher le cul à Bayrou.
Ouais, salut Daniel. Ben, c'est Francis de la Martinique. Je sais pas si tu te souviens de moi. Il y a 5 ans, je t'avais appelé pour te faire part de ma joie en ce qui concernait mon candidat pour le deuxième tour. Bon, là, c'est moins la joie. Hein, mon candidat n'est pas au deuxième tour. Mais le tien non plus. Eh oui, ton candidat à toi et tes amis, c'était Chirac. Vous aviez tous massivement voté pour lui à 82%. Un raz-de-marée, une unanimité comme on n'avait jamais vu. Bon, c'est vrai, il y avait une raison noble. Vous aviez décidé de voter Chirac pour battre Le Pen. Mais là où ça devient amusant, c'est que aux élections suivantes, ça s'appelait référendum pour l'Europe, vous aviez massivement voté comme Le Pen dans le but de battre Chirac. Avant, je vous appelais les socialos ou les cocos. Depuis, je vous appelle les guignolos. Daniel, toi et tes amis, vous allez disparaître. Pour moi et les miens, après plus de 40 ans de lutte, je sais que l'avenir est à nous. Allez, bye bye.
Français, ça ne peut plus continuer ainsi. Depuis des mois, Nicolas Sarkozy tyrannise une famille innocente. Depuis des mois, il expose sa femme aux médias et aux journaux dans un proxénétisme électoral insupportable. Et hier, nous avons tous été témoins d'une scène pathétique qui ne laisse plus aucun doute sur la dangerosité de l'individu. Le matin, il avait déjà contraint sa femme, Cécilia, et les deux filles que celle-ci a eues avec Jacques Martin à l'accompagner au bureau de vote, ceci dans une mise en scène abjecte, pour les livrer en pâture aux caméras et faire croire aux Français qu'ils étaient une famille unie. Mais le soir, sa femme n'était plus présentable, épuisée par le harcèlement du tyran. Il a donc exigé que les deux jeunes filles l'accompagnent. Il les a exhibées à la foule, puis les a traînées dans sa berline et les a contraints à se laisser filmer et flasher de façon obscène dans une virée hystérique à travers la capitale. Dans la voiture, ils ne se parlaient pas, ne se regardaient pas. Aux côtés de cet individu dangereux et imprévisible, prêt à tout pour atteindre son but, les deux jeunes filles épouvantées étaient blêmes. La plus jeune, dans un état d'angoisse extrême, fumait cigarette sur cigarette. Français, vous ne pouvez pas dire, vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas. Plus que 14 jours pour libérer ces 3 otages.
Bon, je t'appelle parce que j'ai voté Bayrou, je pense que c'est l'avenir. Parce qu'il va y avoir une sacrée castagne entre les deux tours, j'ai l'impression. Et puis d'autre part, enfin, je fais mon petit boulot sur le plan écologique, j'ai largué la bagnole. Je roule en vélo, tu peux pas savoir les économies que je fais. Assurance, PB, parking... Et je bronze et je suis à l'air libre. Enfin, j'ai la chance de pouvoir faire ça. Mais vive le vélo et puis le centre. Allez, au revoir.
Oui, bonjour. Je ne pouvais pas vous joindre hier soir en raison d'un grand nombre d'appels. Alors, je voulais vous signaler, au cas où vous ne l'aviez pas vu, c'est qu'à 20h56 sur France 2, la voiture de Nicolas Sarkozy brûle un feu rouge sous l'œil des caméras. Bravo. Au revoir.
Et ben voilà, 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 des vertes, des palmes mûres, des gueules de bois et des matins qui chantent et qui déchantent, toute une effervescence dans la boîte vocale de la Bastille au 01 56 40 37. Et puis aussi des échos, des photos, des croquis de ce qui s'est passé hier, des choses que vous n'avez pas forcément vues à la télé. La Bastille, j'y suis toujours en avance. Alors là, on va être très, très en avance avec des messages très mystérieux que nous envoie depuis pas mal de temps déjà un auditeur absolument anonyme qui nous donne des nouvelles du futur, de notre futur et du futur de celui qui a toutes les envies possibles d'être le président de notre bel hexagone. Voilà, des nouvelles du futur, des nouvelles d'hier, de l'effervescence, des vertes et des pas mûres, jusqu'à 16h dans la basse. J'y suis auparavant. Encore quelques messages parmi les très très nombreux messages que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse. J'y suis au 01 56 40 37 37.
Bonjour Daniel, je vous appelle du Var, je suis franco-italienne et j'ai un peu peur pour ces élections présidentielles car je crains que le scénario que nous avons vécu en Italie il y a 6 ans se répète. Je rappelle que Monsieur Sarkozy est un fervent admirateur de Monsieur Silvio Berlusconi, que tout le monde connaît bien, et que pendant 5 ans a dirigé l'Italie sous une droite alliée plus que jamais avec l'extrême droite de Gianfranco Fini. Et rappelons de quoi il a été capable un gouvernement pareil lors du G8 de Gênes en 2001, quand la police a tapé à coups de matraque et gaz lacrymogène sur la population qui manifestait pacifiquement. Ils ont tapé sur des jeunes, des médecins, des journalistes, des enseignants, des personnes âgées, des adolescents, enfin. J'espère vraiment que les Français réfléchissent sur une telle alliance en France, parce que si Monsieur Sarkozy gagne ces élections, ça sera aussi sans aucun doute une droite de Monsieur Le Pen et sa fille Marine. Je suis mère de 3 enfants et j'espère que personne n'aura jamais droit de juger que mes enfants soient prédisposés génétiquement à être des pédophiles, des criminels ou des suicidaires. Bon, croisons les doigts pour dimanche et puis félicitations pour l'émission et à très bientôt. C'était Chiara.
Oui, bonjour Monsieur Mermet. Je m'appelle Eric, je vous appelle de ma voiture et je voulais dire aux Français, aux Françaises, De Gaulle a dit à une époque, il y a quelque temps, il y a quelques années déjà, nous étions des veaux. Les Français sont des veaux. Quand je les écoute sur votre pitoyable émission, aucun enthousiasme, aucun message porteur de positivité, je trouve ce peuple vivant dans l'inquiétude, le doute, n'ayant confiance en rien, et surtout pas en lui-même. Et je trouve que vous, Monsieur Mermet, ne faites rien pour tenter d'améliorer les choses, alors qu'il y a tout un tas de gens qui, comme moi, portent beaucoup d'espoir dans des gens en qui on peut avoir confiance. Mais Français, Françaises, je vous trouve déplorable, sans aucun enthousiasme, sans aucune envie, sans aucun courage. Voilà. Et Monsieur Mermet, je trouve que vous entretenez très largement cette situation. Au revoir.
Bonjour Daniel. Je trouve extrêmement courageux et démocrate de passer aussi les messages de ceux qui fustigent vos reportages. Mais je suis désolée de constater que la plupart sont injurieux, mais sans argument. Et je suis alors extrêmement frustrée de ne pas avoir l'occasion de comprendre comment on peut légitimer les parajutes en or face à la précarité des ouvriers qui travaillent dans les mêmes usines que ses grands patrons. Sincèrement, je voudrais que le monde développe une argumentation convaincante et non simplement des messages vociférants et injurieux. Peut-être que cela calmerait mon avis de vomir face au sentiment violent d'injustice et de déshumanisation. Je suis pourtant patronne, je gagne bien ma vie et il ne m'en faut pas plus. Et j'en fais profiter mes employés, je dirais plutôt mes collaborateurs qui participent à la réussite de mon restaurant. Fabienne, à Bordeaux.
Oui, bonjour, je m'appelle Michel et je suis en Gironde. Je vous appelle à la suite d'un message qui vous a été laissé jeudi ou vendredi, je ne sais plus, à propos de la lutte de classe. La personne dit qu'elle n'existe plus ou qu'elle n'est plus d'actualité. Ah ben, moi ça me surprend. Parce que qu'est-ce qu'ils font en face ? Revenir sur tous les acquis. La sécu, entre autres. L'allongement des années de cotisation. La sécu, on la paye au moins 3 fois. Les cotisations sur salaire, la CSG, le RDS, les déremboursements de nombreux médicaments. Et puis d'abord, quelle est la loi qui nous interdit d'avoir la même maison ou la même voiture que le patron d'ADS ou de Chirac ? Aucune. À 54 ans, je suis infirmière dans un service d'accueil en psychiatrie. J'élève seule ma fille de 14 ans. 1800 euros par mois si je travaille un week-end sur deux et je fais 4 nuits. C'est pas de la lutte de classe, ça ? Et encore, j'ai de la chance d'avoir un métier. Je vous signale qu'il y a plus de 6000 lits qui ont été fermés en 10 ans en psychiatrie. Nous avons 24 lits pour un effectif moyen de 30 patients. On vient de nous installer des lits pliants dans les services. Je vous laisse réfléchir un petit peu sur les conditions de travail du personnel et les conditions d'accueil des patients en crise. Alors ça, c'est pas de la lutte de classe ? Allez, au revoir.
Jean-Marie et Marine Le Pen, président, vite, vite, vite !
Oui, allô, bonjour. Voilà, j'appelle pour témoigner ma sympathie à l'égard de ce monsieur qui a appelé vendredi pour s'indigner que ses impôts servent à payer une radio comme France Inter pour la simple raison qu'elle passe là-bas si j'y suis. Donc je dois en effet lui concéder un point, c'est qu'effectivement les impôts de tous ne peuvent certainement pas servir à tout. Donc je lui suggère plutôt de s'occuper des trucs comme la police, le futur EPR ou les éventuels porte-avions. Et les miens continueront à payer France Inter avec d'autres choses aussi scandaleuses comme les associations, les festivals ou les lignes SNCF non rentables. Je vous remercie. Merci beaucoup de votre émission de jeudi sur les salaires des comptes industriels. Au revoir.
Oui, Daniel, oui, Christophe, bonjour, c'est Myriam d'Avignon. Alors voilà, je voudrais y passer. Bon, on vient d'avoir suivi le fait. Beaucoup d'émotions. Une petite mamie qui était devant moi avec son petit trépied toute beauté, qui m'a beaucoup fait penser à la dame de vendredi, qui avait 86 ans, je crois. Je trouvais très modeste, très, très touchante. Touchante aussi Catherine qui parlait juste avant, et puis la jeune fille qui parlait de faire l'amour, ce qui est très bien. Je ne sais pas si je pourrais vous écouter demain. Demain, je suis au milieu des abeilles. Mais quand je suis au milieu des bergers de pommes, ben, j'ai ma petite radio autour de la taille. Et puis, j'aime beaucoup vos émissions. Merci et bonne continuation.
Oh là là, oh non, ça je ne pourrais pas, oh non, ça je ne pourrais pas.
C'est la fin du mois ?
Encore ? Enfin, il y a un mois, c'était déjà la fin du mois, et puis dans un mois, ce sera encore la fin du mois, et puis il y a tout ça qui s'arrête.
Auditeurs modestes et géniaux, à chacun d'entre vous, un grand bonjour. Ici, c'est Frédéric Deville, je vous appelle de Bruxelles, en Belgique. Je vous rappelle que le repère de Bruxelles se tiendra ce mardi 24 avril à 20h30 à la Maison du Pâques, 71 rue Middelbourg à Watermael-Boisfort. Watermael-Boisfort est une des 19 communes de Bruxelles. Voilà, nous parlerons de travail, de la valeur du travail, de la façon dont vous vivez le travail, dont vous espérez le travail. J'espère vous voir très nombreux. À très bientôt.
Attention, camarade. Ici, les règles du jeu sont claires. Et à ce petit jeu-là, laisse-moi te dire que tu ne pars pas gagnant.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas si j'y suis, avec toute l'équipe de là-bas si j'y suis, le jour d'après.
Flight number 2, arriving from New York.
Nicolas Sarkozy, homme politique français. Sarkozy est un homme de petite taille qui fut élu président de la République française au début du XXIe siècle avec 82% des suffrages. Nicolas Sarkozy s'était octroyé les votes des Français en s'adressant à eux dans les termes les plus stupides et les plus crus. Le règne de Sarkozy fut marqué par de graves crises sociales, une répression féroce des masses populaires et une corruption effrénée. Dépassant largement les ambitions de Margaret Thatcher en Angleterre dans les années 80, la politique libérale de Sarkozy restera comme une période noire de l'histoire de France. Atteint d'une psychose caractérisée par la succession à intervalles réguliers d'accès de manie ou de mélancolie, la croisade militaire que Sarkozy mena au Proche-Orient et qui avait pour objectif de reconstruire le temple de David à Jérusalem, déboucha sur la plus dévastatrice des guerres de religion. La mort de Sarkozy reste un mystère, officiellement suicidé dans son bunker. Son corps n'a cependant jamais été retrouvé.
Bonjour et bienvenue pour les infos. Le président du parti radical contre l'immigration et pour le renouveau de l'ordre moral, Nicolas Sarkozy Ier, a organisé des rafles hier aux abords d'une école avec l'aide de ses chiens de garde de la milice afin de neutraliser un dangereux vieillard sans papier et ses deux petits-enfants scolarisés en France, probablement tous de dangereux terroristes. D'autre part, Nicolas Sarkozy Ier a menacé de licenciement les dirigeants de notre troisième chaîne de télé des services publics car en effet, il n'avait manifestement pas les moyens techniques suffisants pour le recevoir, lui et son staff, dans de bonnes conditions, à savoir une loge de maquillage personnel réservé pour lui. Pour finir, Nicolas Sarkozy Ier a menacé et injuré des responsables du journal Libération car ils avaient osé parler de sa fortune personnelle sans son autorisation préalable. Enfin, Nicolas Sarkozy Ier rencontrera aujourd'hui Maurice Papon, préfet de la Gironde, ainsi que M. Laval pour faire le point sur leur action commune. Merci et à demain pour les infos.
La présence au second tour de Nicolas Sarkozy, certains la qualifient déjà de choc du 22 avril. Ça n'est vraiment pas le cas du syndicat des dictateurs morts qui compte parmi ses membres, entre autres, des figures comme Hitler, Mussolini, Ceausescu ou encore Pinochet, la toute nouvelle recrue. En effet, les dictateurs morts qui justement se réunissaient hier en congrès dans une benne à ordures se sont déclarés enchantés du résultat du scrutin français et impatients d'être au deuxième tour pour assister à la victoire de leur champion.
Se taire, c'est consentir. Se taire, c'est accepter. Se taire, c'est être complice. Et voilà pourquoi, depuis tant d'années, vous l'ouvrez dans la boîte vocale de la basse CIJSPI que chaque jour, nous ouvrons à notre tour. Et qu'est-ce qui se passe quand on loue ? Ben, parfois, ça sent bon, des effluves parfumées, printaniers, nous aux enchantes les narines, et parfois ben, ça pue un petit peu dans le fond de la boîte vocale de là-bas si j'y suis. Mais il y a des jours, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent dans tous les sens, contradictoires, qui s'embrouillent entre l'étonnant, le judicieux, le rigolo, le coléreux, mais toujours avec ce désir de l'ouvrir pour les raisons que je viens d'indiquer. Et pour cela, nous vous disons merci et nous vous disons bravo, chers amis modestes et géniaux. Évidemment, vous pensez bien que tout au long de ce week-end, nombreux ont été ceux qui se sont exprimés dans ce célèbre répondeur et on va en avoir quelques échos et quelques échantillons à l'instant même. Ce que vous venez d'entendre, c'est la voix d'un auditeur qui, depuis des semaines et des semaines, nous fait des sortes de chroniques du futur absolument calamiteuses, exagérées, exorbitantes et très, très poilantes. Et c'est aussi avec cet auditeur que nous allons passer cette heure. Et puis, des photos, des croquis, rue d'Anguin, rue de Solferino et ailleurs, des croquis, des dessins et des photos sonores de l'équipe de là-bas si j'y suis. C'est jusqu'à 16h sur France Inter, le jour d'après.
Toujours plus. Il y a la mer, le sol.
soleil et les gros fourneaux qui narguent les anciens et les gaz dans les poumons, un souffle amer. Il y a des gens heureux que l'on croise en chemin et font peser sur nous le poids des années du déclin. Il y a des gens tristes et moi bien sûr j'insiste à leur dire ne soyez pas seuls, on est des milliers sans rien. Je ne manque de rien, tout est plein, le frigo, la cuisine et tout le home cinéma. Il y a des fois, tout est plein, je me rends compte à quel point je suis vide et j'ai toujours besoin. Il n'y a pas de place pour les gens qui n'ont besoin de rien, leurs besoins ne sont pas comptables. Il n'y a pas de remède pour les gens qui sont bien. On aura beau les séduire, ils ne pitent à rien. Il n'y a pas de magasin où l'on puisse trouver le moyen d'échapper à notre condition d'humain. Il y a des biens qui ne valent rien si ce n'est qu'ils me font croire que je suis le top du citoyen moderne. Les gens qui tâtent en avant reconnaissent pourtant bien qu'ils sont pas si malins à se donner du mal pour rien. Qui n'a pas de moyens et entouré de biens se retrouve sans rien car il n'a pas payé la traite.
Car il n'a pas payé la traite.
À celui qui s'emboucane et crime comme un âne, c'est pour satisfaire sa femme et les enfants qu'il n'a plus de temps pour eux. Tout le monde s'emmerde à essayer de ressembler à tout le monde, s'énerve à essayer de se sortir de ce merdier.
Là, il y a deux camps, il y a d'un côté ceux qui applaudissent l'éventuelle arrivée de Nicolas Sarkozy et ceux qui sifflent en faisant des doigts d'honneur derrière. Là, il y a les flics qui sortent.
Reculez, merci, s'il vous plaît.
Là, il y a la voiture de Sarko qui passe. Ça y est, il y a les flics qui chargent. Les flics arrêtent un mec. Ils sont à 25 sur un seul mec. Là, on est au milieu des CRS. Qu'est-ce qui s'est arrivé? Vous avez déployé une banderole?
Ouais, on a déployé une banderole, ils ont pas voulu nous laisser passer. On est contre le sarkozisme, on considère que c'est un péril comme le fascisme. Et voilà comment la police de France nous répond par des matraquages. Ils nous ont refusé de déployer une banderole.
Qu'est-ce qui a marqué sur votre banderole?
Résistance républicaine, résistance au sarkozisme.
Résistance républicaine!
Vous reflétez l'électorat,
hein.
Pardon?
Ils ont déconné là.
Ça prouve l'exemple de leur liberté de penser. Eux qui représentent soi-disant la liberté de penser. Voilà,
c'est
chacun a voté, le peuple a choisi.
Chacun a voté d'une manière tout à fait légale.
Voilà, il n'y a pas. Pour moi, c'est la provocation.
C'est la provocation, quoi.
Mais ils sont jamais passés de leur vie.
Mais c'est l'image du PS, ils sont voilà. Cadres, ils sont
mais
frères.
Voilà. Non, mais... mais voilà, ils se prennent pour des papas. Non mais ça y est. Non, mais...
Ils ont rien compris.
Mais ils ont rien compris. Depuis que je suis entré des États-Unis, voilà, j'ai ma carte depuis 3 ans et je comprends pas qu'un jeune de 20 ans puisse pas cautionner des idées comme ça.
Voilà, des scènes que vous n'avez pas forcément vues à la télé hier, c'était, vous avez compris, rue d'Anguin, dans la rue du siège du candidat Sarkozy, c'est-à-dire dans le faubourg Saint-Denis, et qui attend, je pense, les habitants du coin attendent avec une certaine impatience que tout ça s'achève, tant la présence du siège du candidat aura troublé tout le quartier, comme on vous l'avait montré d'ailleurs dans des reportages. Donc voilà, c'est une image, mais il y a un sympathique habitant du quartier qui se propose de nous faire visiter d'un peu plus près et puis surtout de nous emmener là où les choses vont se passer, c'est-à-dire Salgavo, dans un quartier beaucoup moins populaire.
Bonsoir. Vous savez s'il y a un endroit où les militants se retrouvent là ou...
C'est Salgavo, c'est dans le 8e.
Vous y allez là ou...
J'y vais, je voulais venir avec moi.
Ouais, ça vous dérange pas.
Tout à l'heure, je me suis fait insulter, je me suis fait traiter, je me suis fait photographier. C'est pas mal.
Pour quelle raison?
Ah bah parce qu'il m'a insulté de raciste. Je suis juif, alors je peux être raciste. Hein. De toute façon, écoutez, on va passer par là parce que ma voiture, elle est rue de Château d'Eau.
Vous avez un badge, c'est ça? Vous avez
un badge.
De l'UMP, c'est ça?
C'est ça. Dire que Sarko, c'est un facho, c'est grave. Comment ils ne se rendent pas compte? Ils ne savent pas ce qu'ils disent.
Bonsoir. Non, c'est
merci.
Pas
dans un plan de manger.
C'est qui gagné?
Sarkozy. Ah là là, pourquoi là là?
Pour la deuxième tour.
Ah bon.
Monsieur, pour la deuxième tour, c'est qui va gagner la deuxième tour?
Sarkozy.
C'est vrai? Et moi, Madame Royal,
faites le compte des gens de droite et faites le compte des gens de droite, de gauche. Il n'y a pas photo.
Et Royal peut-être, non? Royal.
Non.
Là-bas des sens?
Elle passe
d'essence. Donc là, les restaurateurs, ils sont pas tellement
courants. Il y en a la moitié qui sont sans papier, alors ils peuvent parler. Hein. Surtout dans ce quartier, vous connaissez ce quartier?
Non.
Ici, c'est l'Afrique. Ce quartier-là, c'est l'Afrique. Là, vous le voyez en calme. Venir en semaine et le vendredi, le samedi. Il faut voir, c'est infernal. Vous
pensez que ça peut changer avec Sarkozy, ça?
C'est pas du nazisme d'irréguler l'immigration, parce que c'est pas possible, ça devient. Et encore, ils n'ont pas parlé, il y a 200 000 familles monogames.
Polygames.
Polygames, 200 000 familles, vous savez, ça fait 200 000 familles. Et tout ça sur le compte de la sécurité, des allocations familiales. La voiture, elle est là.
C'est la Mercedes?
C'est pas une Mercedes. On croit que c'est une Mercedes.
Vous avez voté?
J'ai voté.
Vous avez voté quoi?
Qu'est-ce que ça leur regarde ce qu'on a voté? Mais je vous dis, c'est l'Afrique ici. Il a même pas voté ce mec-là. C'est même pas des gens qui votent ça. C'est même pas des gens qui votent. C'est même pas des gens qui votent. Je dis, ici c'est l'Afrique ici.
Vous habitez le quartier ou...
J'habite là, juste à côté.
J'habite en Afrique. Il n'y a qu'à voir Best Africa, il n'y a que ça dans le coin. Alors cette rue, c'est les Africains, la rue d'à côté, c'est les Chinois, la rue d'à côté, c'est les Turcs. Mais ce n'est pas une question de race. Je suis juif, je peux être raciste? Non, je ne suis pas raciste, mais il y a quand même des choses. La France, elle ne peut pas accepter la misère du monde. Hein. C'est pas possible.
Une journée noire dans le monde du travail. Un syndicat français vient en effet d'être créé pour défendre les intérêts des travailleurs esclaves. La CNED, Confédération Nationale des Esclaves Déçus, est donc le premier syndicat créé depuis l'interdiction du syndicalisme qui eut lieu en 2007 au lendemain de l'élection du président Sarkozy. L'administration Sarkozy, forte de sa devise « Travailler plus pour travailler plus », avait pourtant mené une politique très offensive contre le chômage en réduisant de près de 100% le SMIC horaire afin de séduire les patrons chinois en leur offrant une main-d'œuvre française meilleur marché qu'en Chine. Une mesure qui avait porté ses fruits puisque s'en était suivie une longue série de délocalisations des entreprises chinoises vers la France. La CNED fait donc peser la menace de négociation pour une réévaluation du SMIC au-dessus de la barre des 2 euros par mois et un deuxième jour de repos par an, ce qui, selon le syndicat, constituerait un progrès majeur en termes de pouvoir d'achat et de qualité de vie pour tous les travailleurs esclaves français. Le président Sarkozy s'est dit inquiet de la tournure que prennent les événements et a aussitôt convoqué la ministre déléguée à l'esclavage, Madame Parizeau. Une confirmation qui nous vient du ministre des Chiffres lui-même, Jean-Louis Bourmou. Le chômage a encore baissé ce mois-ci. On enregistre en effet une chute de 376% des demandeurs d'emploi par rapport au mois dernier. Le chiffre officiel du chômage en France passe ainsi sous la barre fatidique du zéro et affiche moins 1,3%. Moins 1,3% de chômage, c'est peu, c'est même moins que pas du tout. Ce chiffre extraordinaire est un succès considérable de ma politique, de mes chiffres, a déclaré Jean-Louis Bourmou avec son large sourire. Madame Laurence Parizeau, patronne du MEDEF et patronne de l'Institut de sondage IFOP, qui fabrique les intentions de vote des Français en cette période préélectorale, a aussitôt rendu un vibrant hommage au ministre Bourmou pour, je cite, « son éminente faculté d'inventer des chiffres historiques ». C'est au musée du Louvre, désormais, que le public pourra admirer les œuvres de Cécilia Sarkozy, la première dame de France qu'on sait douée pour l'art. À l'instar de Velázquez et de Delacroix, les chefs-d'œuvre de Madame Sarkozy rejoindront les 6 messes du musée le plus fréquenté au monde pour une rétrospective. On pourra donc s'émerveiller des coloriages les plus subtils, les représentations de Mickey, Pluto, Onk Picsou ou encore les portraits bien sentis du clown McDonald. Des œuvres transcendantes, enfin reconnues à leur juste valeur par l'ensemble des spécialistes depuis la nomination de Monsieur Finkielkraut au ministère de la Culture.
Tiens, tant que je suis bonne humeur, je vais m'en faire un. Un qui n'en veut et qui fait tout pour qu'on le voit bien. Pareil que Léon Roy, il nous déteste. Bah non, y a pas que Tchernobyl qui vient de l'Est. C'est un truc qui avance sans peur et sans reproche. Un truc comme l'enfant d'un bouche et d'une cloche. Il plaît aux grands et aux petits. Dès qu'il sort son nez, tout le monde applaudit. Et non, c'est pas Ronald MC. Il a la flûte, y a les rats, il a l'air populaire. Lui, c'est pas les rats qu'il va foutre à la mer. C'est à coup de matraque qu'elle va voguer notre galère. Et non, t'auras pas ma voix, Nicolas. Compte là-dessus, je peux te dire que tu l'auras pas. Je dis non. Et quand je dis non, compte là-dessus, je peux te dire que tu l'auras pas. Et non, t'auras pas ma voix, Nicolas. Compte là-dessus, je peux te dire que tu l'auras pas. T'auras beau te pointer avec tout un tas de people. Et même si Jean Reno se mettait au Charleston, je dis non. T'auras pas ma voix, Nicolas. Compte là-dessus, je peux te dire que tu l'auras pas. Je dis non, Nicolas. Non, tu l'auras pas. Sinistre de l'intérieur, vu de dehors, il est jamais à l'aise, il a peur. Pareil que c'est à cause de son chauffeur, car il pousse un peu sur le kilomètre heure. Sinon, dans le genre indice pas cher, le seul jardinier qui cultive au Karcher, il va privatiser l'assurance maladie. La meilleure des préventions, c'est la répression, il l'a dit. Il inquiète même la Ligue des droits de l'homme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est une menace, cet homme. Inspiration, expulsion, expiration, ton bail de location. Pareil que le nucléaire est un choix écologique. Pareil que consommer, c'est un truc magique. Non mais Nico, qu'est-ce que tu crois? Je vois très blanc même entre toi et toi. Et non, t'auras pas ma voix, Nicolas. Compte là-dessus, je peux te dire que tu l'auras pas. Je dis non, Nicolas. Compte là-dessus, je peux te dire que tu l'auras pas. Et non, t'auras pas ma voix, Nicolas. Compte là-dessus, je peux te dire que tu l'auras pas. Il aimerait beaucoup être l'idole des jeunes. Dis-lui qu'on confond pas les Tongs et les Weston. Et non, t'auras pas notre voix, Nicolas. Compte là-dessus, je peux te dire que tu l'auras pas. On dit non, Nicolas. Non, non, non. Non, t'auras pas notre voix, Nicolas. Compte là-dessus, je peux te dire que tu l'auras pas. On dit non, Nicolas. Non, 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 non. Attachez vos ceintures, éteignez vos mégots, car voici l'aventure de Nicole des Magots. Et non, Nico. Oh, pas de bras. Tu l'auras pas. T'auras pas ma voix. Spécial promo sur la carotte et le bâton. Grosse réduction sur la liberté d'expression.
Il avait été bouleversé de voir Nicolas Junior rentrer à la maison en état de choc. Il était lui-même allé préparer une boisson pétillante américaine dans la cuisine. Boisson pétillante américaine qu'il tendit à son fils en s'asseyant près de lui sur le canapé du salon. Et lorsque l'enfant s'expliqua, il eut comme un haut-le-cœur. Le malheur s'abattait sur la famille. Le scooter du petit avait été volé. Voler son fils, c'était le meurtrir lui-même dans sa chair. Lui-même, le pourfendeur du désordre, le grand humaniste, l'ami des femmes et des enfants. Il jura à l'héritier. Petit, toute la lumière sera faite sur cette histoire. Je punirai moi-même le misérable qui t'a fait ça. Puis il prit la main de la chair de sa chair. Junior, il y a une chose que tu dois savoir. J'ai une théorie. C'est génétique. Tu vois, le papa voleur de scooter dépose une graine dans le ventre de la maman voleuse de scooter. 9 mois s'écoulent, puis ils obtiennent un mélange. Ce mélange, à son tour, volera des scooters. Tu comprends ? Nicolas Sarkozy, quelques mois plus tard, dans son bureau de l'Élysée, reposa le combiné du téléphone avec lequel il venait de s'entretenir avec son ami George Bush. George avait toujours de bons conseils pour Nicolas. Et alors que le bon président sentait naître une nouvelle migraine, il paraffa le décret qui rétablit la peine de mort.
Quelques nouvelles du futur dans la boîte vocale de là-bas si j'y suis, déposée là par un mystérieux auditeur que vous reconnaissez si vous nous écoutez fidèlement depuis des semaines, sinon des mois. Nous entendons cette voix inspirée par Huxley comme par Orwell qui nous dit ce qui va nous arriver, ou du moins ce qui nous est arrivé, puisque on est dans la science-fiction poilante. Alors, que se passait-il hier ? Eh bien, on a eu des échos de ce qui se passait rue d'Anguin, du côté de chez Monsieur Sarkozy. Et là, on va aller de l'autre côté, on va aller du côté de la rue de Solferino, au siège du Parti Socialiste. Olivia et Pascal étaient là avec leur petit micro.
Je veux dire merci, et un merci qui vient du plus profond de mon cœur.
Pourquoi vous dites non en secouant de la tête ?
Fait confiance.
En écoutant Nicolas Sarkozy.
Pour moi, c'est réellement, il savait ce qui est vraiment Sarkozy.
Aux ouvriers,
je dirais, il y aurait peut-être 5 à 6% qui voteraient pour lui. C'est pas 30%. Le vrai Sarkozy, c'est pas ça.
La France qui est exaspérée,
c'est un autre.
Et qui souffre.
C'est qui ?
Celle des banlieues en difficulté.
C'est un homme autoritaire qui aime le pouvoir et c'est tout ce qui l'intéresse. C'est le pouvoir. Voilà, c'est Sarkozy. Ça m'inquiète pour la France et pour la démocratie. Quand on voit la mainmise de Sarkozy sur les médias. Il est au service des puissants, il est au service des riches. Et les gens, ça, ne l'ont pas vu, malheureusement. C'est les candidats de la démagogie.
Je n'ironirai jamais.
Et du populisme.
Parce que je suis profondément convaincu.
Et c'est malheureux pour la France.
Que l'avenir de la France, sa prospérité.
Et c'est pour ça que j'ai secoué la tête quand j'ai entendu qu'il y a 11 millions qui ont voté pour lui.
Alors, dans les 15 jours qui restent avant le second tour, je veux dire à tous les Français qui ont peur de l'avenir, qui se sentent fragiles, vulnérables, qui trouvent la vie de plus en plus lourde, de plus en plus dure, je veux dire à tous ces Français que je veux les protéger. Au fond, je veux parler à tous ceux que la vie a brisés. Je veux parler aux accidentés de la vie. Je veux parler à ceux de nos compatriotes que la vie a usés, à ceux qui sont dans la détresse. Je veux parler aux malades, aux handicapés, aux personnes âgées.
Voilà la démagogie, à l'état pur. Voilà des promesses à tout le monde.
Eh bien, moi, enfin, je veux leur redonner l'espérance.
Vous avez un regard affligé.
Le candidat vraiment de l'affrontement entre les différentes catégories de la population en France. C'est pas un homme de rassemblement. C'est un homme de division. C'est pas le rassemblement comme il le dit, mais c'est l'affrontement. Voilà.
Ce premier tour d'élection présidentielle est une victoire pour notre démocratie.
Alors voilà, rue de Solferino, et pendant ce temps, François Ruffin était salle Gaveau, où il rencontre une éminente personnalité.
Donc là, on se trouve salle Gaveau, il y a un grand panneau. Ensemble, tout devient possible, avec le portrait de Nicolas Sarkozy en 4x3. Sur la droite, il y a la chaîne de télé Nicolas Sarkozy TV. Puis il y a des petits fours. Monsieur Seyer, vous va remettriez une interview pour France Inter ?
Vous savez, sous l'angle purement européen, je veux dire, vous n'allez pas m'attarder facilement dans les questions qui pourraient vous intéresser.
Mais c'est-à-dire que vous êtes quand même au siège de campagne de Nicolas Sarkozy.
Je salue d'abord un ami. Salut, comment vas-tu ?
Tu vas bien.
Bonjour, vous allez bien ?
Non, je suis président, comme vous le savez, actuellement, de ce qu'on appelle Business Europe, c'est-à-dire en fait de l'ensemble des patronats européens. Et donc, en tant que tel, bien entendu, je suis de très près la campagne. Et je dois dire que, d'une manière générale, on pense que la droite est bien représentée par Nicolas Sarkozy, qu'on connaît bien en Europe, et dont on pense que c'est un homme dynamique et capable de réformer la France.
Vous avez passé au siège du PS ensuite ?
Écoutez, on va voir, et si on m'y accueille, pourquoi pas.
Alors moi j'ai apporté mon suffrage à Le Pen au premier tour.
Aujourd'hui ?
Aujourd'hui. Et je suis très déçu de voir. Vous arrêtez d'enregistrer parce que j'ai dit que je votais Le Pen.
Non, je règle parce que vous criez fort. Bon, donc vous avez voté Le Pen aujourd'hui. Là, vous êtes devant le QG de Nicolas Sarkozy.
Voilà, parce que je ne vois pas vers qui d'autre que Nicolas je puisse me tourner pour que mes idées soient mises en œuvre. Et j'ai des doutes. Je suis très déçu que Nicolas ait volé les voix de Le Pen au premier tour. Et c'est ça qu'on a vu. On a vu un hold-up électoral sur les voix d'extrême droite. Donc je m'interroge pour savoir si jamais Sarkozy est un vrai fasciste en qui je puisse avoir confiance, ou si en fait c'est un républicain voleur qui a usurpé mes intentions de vote pour les transformer en supercherie républicaine. Eh bien non, je vous le dis, nous ne nous laisserons pas faire.
Donc vous espérez que ça soit un vrai fasciste alors ?
Je sais plus comment faire. Alors moi ce que j'aimerais, c'est que déjà, premièrement, je veux dire, on a un vrai problème en France, c'est sur la valeur travail. Et donc comment est-ce que Sarkozy va mettre les chômeurs au travail ? Moi j'attends de savoir comment il va répondre à cette question pour être sûr que je vote pour lui. Je vous le dis, hein, je veux dire, sinon je pars vivre aux États-Unis.
Vous allez faire quoi aux États-Unis ?
Je vais faire des affaires, du commerce international, un peu en export.
Vous êtes en train de déconner depuis le début là, non ?
Je ne me permettrai pas, face à la presse nationale, de raconter n'importe quoi dans un moment aussi déterminant pour l'avenir de notre pays.
Je crois que vous foutez de ma gueule, en fait, non ?
Si vous le pensez sincèrement, n'avez qu'à changer d'interlocuteur. J'autorise le montage de mes propos. Vous pouvez me faire dire n'importe quoi. Vous avez ma caution.
Vous débrouillez bien tout seul.
T'aurais pas une cigarette, camarade ?
Bah, c'est ma dernière.
C'est à ça qu'on reconnaît les sarkozistes. Un mec de gauche, il t'offre une clope. Le mec de droite, il dit c'est ma dernière.
Est-ce que tu peux mater mes tongs, s'il te plaît ?
Pardon ? Est-ce que tu peux dire à l'auditeur...
C'est des tongs UMP ou pas ?
Précise à l'auditeur que je porte des tongs UMP.
Ah bah ouais, je sors plus, hein ? Ah bah non, hein ? Bah à cause de la reconnaissance, hein ? Ça a drôlement augmenté la reconnaissance, hein ? Ah surtout avec les armes, hein ? Leur décentralisation. Moi j'en veux pas, vous voyez déjà avec Tchernobyl et l'anatome de Montréal. C'est bien joli de changer les élections en kakina. Mais les années bissextiles, ils y pensent pas. Hein.
Sur sa
caisse
que je vous dis, c'est un contre reconnaissance. Si tout le monde fait des skinny, alors elle est belle la France. Sur sa caisse que je vous dis, c'est un contre reconnaissance. Si tout le monde fait des skinny, alors elle est belle la France.
Ah, c'est pour ça, moi la dernière fois j'ai voté contestataire. Au moins lui, tiens ses promesses, il a les épaules sur terre. Avec lui, l'Europe sera française et chacun sera chez soi. Il a promis qu'il augmenterait le pouvoir. Déjà, enfin je fais des vents sur la gourmette parce qu'on en est pas là. Avec tous les coups en France, c'est sûr que jamais il passera. Sans lui l'insécurité, elle restera dangereuse. Ça la France est pour aider, hein. Puis le fossé il se creuse.
Tout
hein,
ça qu'est-ce
oui.
Que je vous dis, c'est à cause de la reconnaissance. Si tout le monde fait qu'est-ce qu'il dit, alors elle est belle la France. Tout ça qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la reconnaissance. Si tout le monde fait qu'est-ce qu'il dit, alors elle est belle la France.
Ah bien, regardez-moi tous ces payeurs hein, qui sont au chômage. Et après veulent le droit de vote, j'appelle ça du chantage. Leur ami et la CEDIC, c'est un dos de malheur pour la France. Et c'est pas les Français qui y touche quand on y pense. Entre nous pour le chômage, c'est la sécurité de l'emploi. Dites-moi pas que c'est pas vrai, hein. Dites-le moi pas, ils le disent à la télé. Nous on touche le fond de notre pension. Et ça aide pas d'être bordé de diplôme, hein. Ça non,
dans
hein.
Dans sa caisse que je vous dis, c'est à cause de la reconnaissance.
Ça serait mon bon fils,
alors elle est belle la France. Dans sa caisse que je vous dis, c'est à cause de la reconnaissance. Et tout le monde fait qu'est-ce qu'il dit, alors elle est belle la France. Alors elle est belle la France. Alors elle est belle la France. Alors elle est belle la France.
Mais jeune, s'il en faudrait un jeune. C'est une bonne guerre. Ma soeur apprendrait à vivre. Et entre nous, on n'était pas si mal que ça en 40. Ah non. Allez, oui merci. Au revoir d'être venu. Oh, j'aime pas. Comprends rien, cette vieille,
fatigue.
Hein.
Ça, qu'est-ce que je vous dis, c'est à cause de la reconnaissance. Et tout le monde fait qu'est-ce qu'il y a, alors elle est belle la France.
Attendons le sondage de demain matin. C'est ce qu'a déclaré M. Claude Guéant, le directeur de campagne de Nicolas Sarkozy, après que celui-ci ait paradé sur les Champs-Élysées cet après-midi devant quelques touristes japonais quelque peu surpris. Dans le plus simple appareil, seulement affublé d'une plume plantée à l'endroit que la morale m'interdit de nommer, Nicolas Sarkozy a donc entamé un numéro de claquette afin, semble-t-il, de ranimer le souvenir de Coluche avant le premier tour de l'élection présidentielle. Selon un proche du candidat, si la stratégie se révélait payante, Nicolas Sarkozy s'apprêterait prochainement à rendre un hommage à Georges Brassens en jouant en public du tambour avec ses parties génitales. Nous conquérerons des territoires jusqu'aux berges de l'océan Pacifique où nous bâtirons des villes. Nous construirons une route pour les diligences et une ligne de chemin de fer qui favorisera l'échange de marchandises. Ne nous laissons pas intimider par ces quelques Indiens qui voudraient nous barrer la route. Nous vaincrons en les affamant. Nous massacrerons tous les bisons. C'est dans ces termes que Nicolas Sarkozy, enflammé par le record de vitesse de la locomotive du TGV à bord duquel il se trouvait, a affirmé son ambition de faire de la France le pivot du soutien à la politique d'Israël. Et alors que le train approchait les 575 km/h, le mécanicien, grisé lui aussi par la vitesse, décida de faire son coming out en affirmant qu'il était un sympathisant d'Al-Qaïda et que les centrales nucléaires d'un pays dont la politique s'alignerait sur celle de Bush ne sont pas préparées à supporter une chute d'avion. Le train, alors, se mit à décélérer et chacun reprit ses esprits en arrivant à la gare. La semaine dernière, le président Sarkozy avait porté de sévères accusations contre les mouvements écologistes, les accusant d'être la cause directe du réchauffement climatique et de la disparition des espèces vivantes. Le président avait eu cette phrase désormais fameuse : « À force d'observer les animaux avec des jumelles, on les tue ». Le gouvernement a donc aujourd'hui décidé l'interdiction totale du Parti Vert. C'est Cécilia Sarkozy qui a elle-même dessiné le nouveau logo, la feuille verte que les écologistes devront désormais arborer visiblement sur leurs vêtements. La première dame de France a expliqué devant nos caméras qu'elle avait toujours eu un don pour le dessin. C'est joli et en plus ça facilite le travail de notre police, a-t-elle affirmé. En ce moment donc, grâce à Cécilia, nos camps de travail s'égayent de plus en plus de couleurs avec ces milliers de gens qui arborent déjà à leur veston des fleurs roses ou des marteaux rouges. Près d'un an après son élection, des rumeurs courent autour de l'état de santé du président de la République. Voilà plusieurs semaines déjà que Nicolas Sarkozy n'est pas apparu devant les caméras et que son frère Raoul assure l'intérim à la tête du pouvoir, démentant régulièrement toutes les rumeurs qui courent autour de l'obésité du président, qui afficherait sur la balance, au dire de certains experts animaliers, plus de 350 kilos. Une hypothèse circule, la raison de cette obésité serait l'augmentation démesurée des frais de bouche du budget du palais présidentiel. On se souvient en tout cas de cette triste image du 14 juillet dernier, lors de la dernière apparition du président Sarkozy. À la fin du défilé, on avait pu voir le chef des armées gesticulant et insultant copieusement son entourage parce qu'il était resté coincé dans la tribune présidentielle. Quarante-huit heures après son élection, le président Sarkozy a voulu faire un geste fort en rendant publique la liste des ministères qui formeront son gouvernement. Fidèle à son slogan, tout a donc été possible. On note donc quelques bonnes surprises, comme par exemple le remplacement du ministère de la Culture par le ministère du culte du chef. En ce qui concerne l'environnement, la création du ministère des flottements durables. La gente féminine n'est pas oubliée avec le ministère des devoirs de la femme au foyer. Une lisibilité de la société sans doute plus claire avec le ministère de l'information officielle. Des économies en perspective avec le ministère de la suppression des aides sociales et le ministère de l'interdiction du service public. L'argent ne fera pas le bonheur des pauvres avec le ministère de l'oligarchie qui veillera à la répartition des richesses. L'ancien ministère de l'Éducation sera remplacé par le ministère du Conditionnement, qui s'occupera de créer des cours de maniement du chariot de supermarché pour les jeunes. Le travail n'est pas oublié non plus avec le ministère du plein emploi délocalisé. Enfin, on compte bien sûr un ministère de l'immigration zéro et de la chasse à l'homme, et un ministère de la guerre au Proche-Orient. C'est Cécilia Sarkozy qu'on sait douée pour l'art qui a redessiné son président de mari. Conseillé par son épouse, Nicolas Sarkozy a donc eu recours à la chirurgie esthétique afin, dans un premier temps, de gagner de la hauteur physique. C'est donc dans une clinique privée de Suisse que le président français est actuellement en convalescence après son opération. Opération qui a consisté à prélever ses culottes de cheval, qu'il avait plutôt proéminentes, et à les greffer respectivement sous la plante des deux pieds du président et sous la peau du sommet de son crâne. L'apparence physique du président de la République ne devrait être que légèrement modifiée, assurent les deux chirurgiens, Frank et Stein, qui ont réalisé l'opération. Cécilia Sarkozy nous a confirmé que son mari a aussi décidé de gagner en prestance en se faisant remodeler le visage à l'image de celui de son idole, George Bush. Hélas, selon un récent communiqué de l'Élysée, les essais qui ont consisté à tenter de faire gagner M. Sarkozy en intelligence ont jusqu'à maintenant été soldés par des échecs. Malgré toutes les interventions sur son cerveau, les capacités de celui-ci demeurent invariablement au niveau de l'encéphale de Yen. Les amis des Yen font d'ores et déjà savoir qu'ils s'insurgent de cette comparaison. Mon projet de société a beaucoup de points communs avec celui de Mickey Mouse. Nicolas Sarkozy n'avait jamais caché sa fascination du monde de Disney. C'est donc avec bonheur qu'il a assisté au 15e anniversaire de Disneyland Paris. Au château de la Belle au Bois Dormant, Mickey avait réservé une surprise de taille au candidat Sarkozy en lui affirmant son soutien sans réserve lors d'une conférence de presse. Une surprise toute relative cependant, puisque comme chacun sait, le numéro 3 du MEDEF n'est autre que Mickey lui-même. Un MEDEF qui, je le rappelle, qu'il dirige d'une poigne de fer avec Laurence Parisot et Guillaume Sarkozy, le frère de Nicolas. Tenant le candidat de l'UMP par l'épaule et posant devant les photographes, Mickey, plus souriant que jamais, reprenait une formule chère au candidat de la droite. « Je casserai la gueule à ces connards d'enfants qui n'inciteraient pas leurs parents à voter pour mon ami Nicolas. » En effet, le noyau dur des bestioles, qui ricanent tout le temps, juge désormais les enfants de gauche trop instables aux abords des attractions. Enfants de gauche qui, semble-t-il, se désintéressent de plus en plus du monde de Disney, qu'ils jugent à la fois préjudiciable à leur développement et trop atlantiste.
Les Français ont exprimé leur volonté de ne laisser personne décider à leur place. En replaçant...
Merci à tous et à toutes, à Pascal Pascarillo, à Olivia Gesbert, à François Ruffin. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter à la rubrique émission de la base. J'y suis. J'oublie de remercier cet auditeur anonyme, ce corbeau du futur qui a parsemé ces dernières semaines, ces derniers mois de la base. J'y suis de ces petites perles. À la technique aujourd'hui, Alain Gadan et Joël Anténa, réalisation Yann Chouquet et Colin Guyenne, assisté de Charlotte Perry et Christophe Imbert. Elle se tient près du répondeur, les oreilles grandes ouvertes jusqu'à demain. Et vous pouvez nous joindre au 01 56 40 37 37, 01 56 40 37. Nous joindre, c'est-à-dire joindre le modeste et génial répondeur de cette émission.